Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir, nous voici donc de retour dans nos lectures en liberté. Et pour la suite de la nouvelle de James Joyce, Les Morts. Sur le palier attenant au salon, Gabriel trouva sa femme et Mary Jane qui cherchaient à retenir Miss Ivors. Mais Miss Ivors, qui avait mis son chapeau et boutonnait son manteau, se refusait à rester. Elle ne se sentait pas le moindre appétit et avait déjà dépassé l'heure qu'elle s'était fixée. « Encore 10 minutes, Molly, » dit Madame Conroy. « Cela ne vous retardera pas une petite bouchée après cette danse. » « Non, je ne puis vraiment. »« Je crains que vous ne vous soyez pas du tout amusé, » dit Mary Jane, déçue. « Énormément, je vous assure, » dit Miss Ivors, « mais il faut que je me sauve à présent. »«
Mais comment rentrerez-vous ?» demanda Madame Conroy.
« Oh, il n'y a qu'un pas ou deux à faire le long du quai. »
Gabriel hésita un instant, puis dit... « Me permettez-vous de vous raccompagner, Miss Ivors, si vous êtes vraiment forcée de vous en aller ?»
Mais Miss Ivors se détacha du groupe. « Jamais de la vie !» s'écria-t-elle. « Pour l'amour du ciel, retournez à vos soupers sans vous soucier de moi. Je suis tout à fait capable de prendre soin de ma personne. »«
Mais quelle drôle de fille vous faites !» dit Madame Conroy. « Franchement !»«
Peu importe !» dit Miss Ivors avec un rire, et elle descendit l'escalier en courant.
Mary Jane la suivit des yeux avec une expression intriguée et morose sur son visage, tandis que Madame Conroy se penchait par-dessus la balustrade, écoutant se refermer la porte d'entrée. Gabriel se demanda s'il n'était pas la cause de ce brusque départ. Mais elle ne semblait pas de mauvaise humeur, elle était partie en riant. Il fixa l'escalier d'un regard distrait. À ce moment, tante Kate trottina hors de la salle du souper, se tordant les mains de désespoir.
« Où est Gabriel ? » cria-t-elle. « Mais où est donc Gabriel ? Tout le monde est là qui l'attend et il n'y a personne pour découper l'oie. »
« Me voici, tante Kate !» cria Gabriel, pris d'une animation soudaine, prêt à découper un troupeau d'oies s'il l'avait fallu.
Une oie grasse et brune, gisait à l'un des bouts de la table, et à l'autre, sur un lit de papier froissé parsemé de persil, reposait un énorme jambon dépouillé de sa première enveloppe et saupoudré de panure. Une ruche de papier entourait soigneusement le trumeau. À côté, il y avait une rouelle de bœuf épicée. D'un bout à l'autre de la table, entre ces deux pièces de résistance, s'alignaient parallèles des rangées de plats, deux petites cathédrales en gelée rouge et jaune, un plat creux rempli de blocs de blanc mangé et de confiture rouge, un plat représentant une large feuille verte dont la tige figurait le manche, sur lequel étaient disposées des grappes de raisins secs et des amandes émondées. Un autre plat semblable contenait un rectangle compact de figues de Smyrne, un compotier de crème cuite saupoudré de muscade, une petite coupe de plaine de chocolat et de bonbons enveloppés de papier d'argent et doré, et un vase de cristal où plongeaient de longues tiges de céleri. Au milieu de la table, montant la garde devant un compotier qui soutenait une pyramide d'oranges et de pommes américaines, se trouvaient deux vieux pichets trapus de verre taillé, qui contenaient l'un du Porto, l'autre du sherry foncé. Sur le haut du piano carré, attendait un pudding dans un énorme plat jaune, et derrière lui, trois escouades de bouteilles de stout et d'eau minérale rangées d'après les couleurs de leur uniforme. Les deux premières noires
étiquetée de brun et de rouge. La troisième est la plus petite, blanche, ceinturée de bandes vertes transversales. Gabriel s'assit hardiment à une des extrémités de la table et, ayant examiné la lame du couteau à découper, piqua solidement l'oie de la fourchette. Il se sentait tout à fait à son aise à présent, car il était un découpeur expert et rien ne lui plaisait autant que de se trouver à la tête d'une table bien garnie. « Miss Furlong, qu'est-ce que je vous envoie » demanda-t-il. « Une aile ou une aiguillette ?»«
Une mince aiguillette.
Et vous, Miss Kiggins ?»«
Oh, ce que vous voudrez, Monsieur Conroy. »
Tandis que Gabriel et Miss Daly faisaient passer des portions d'oie et des portions de jambon et de bœuf aux épices, Lily faisait le tour de la table avec un plat de pommes de terre chaudes et farineuses enveloppé d'une serviette blanche. C'était une idée de Mary Jane, et elle avait aussi proposé de la sauce aux pommes pour l'oie. Mais Tante Kate avait dit qu'une oie tout bonnement rôtie sans sauce aux pommes lui avait toujours suffi, et elle souhaitait ne jamais rien manger de pire.
Mary Jane servait ses propres élèves et veillait à ce qu'elles fussent pourvues des meilleurs morceaux. Et Tante Kate et Tante Julia opéraient le transfert des bouteilles de stout et d'ale qui se trouvaient sur le piano destinées à ces messieurs et des bouteilles d'eau minérale destinées à ces dames. Il y eut un grand vacarme, beaucoup de rires et de confusion, d'ordre et de contre-ordre, cliquetis de couteaux et de fourchettes, bouchons de liège et de carafes qui sautent. Gabriel se mit en devoir de découper une deuxième tournée dès qu'il eut fini la première avant même de se servir.
Tout le monde protesta bruyamment, si bien qu'il transigea en buvant une forte rasade de stout, ayant reconnu que c'était une rude besogne que de découper.
Mary Jane s'attabla tranquillement devant son souper. Mais Tante Kate et Tante Julia trottinaient encore autour de la table, se marchant sur les talons, l'une barrant le chemin à l'autre et se donnant mutuellement des ordres dont elles ne tenaient aucun compte.
M. Brown ainsi que Gabriel leur enjoignirent de s'asseoir et de manger leur dîner, mais elles répondirent qu'elles avaient bien le temps, sur quoi Freddy Malins se leva et, s'emparant de Tante Kate, la fit retomber de force à la place qui lui était réservée au milieu du rire général.
Quand chacun fut bien servi, Gabriel dit en souriant « Maintenant, si l'un de vous désire encore un peu de ce que le vulgaire appelle du bourrage, qu'il ou qu'elle le dise. » Un cœur de voix l'invita à commencer son propre souper, et Lily s'avança munie de 3 pommes de terre qu'elle lui avait réservées.
« Parfait !» dit Gabriel aimablement, se versant une deuxième rasade en guise d'apéritif. « Ayez la bonté d'oublier mon existence, mesdames et messieurs, pour quelques instants. »
Il se mit à son souper sans prendre part à la conversation, où se perdait le bruit que faisait Lily en ôtant les assiettes. Le sujet de l'entretien fut la troupe de l'opéra, qui se trouvait alors en représentation au Théâtre Royal. M. Darcy, le ténor, un jeune homme basané à l'élégante moustache, loua hautement le premier contralto de la compagnie, mais Miss Furlong trouvait qu'elle mettait dans l'émission une certaine vulgarité de style.
Freddy Malins dit qu'il y avait un chef de clan nègre qui chantait dans le deuxième acte de la pantomime de la Gaîté et qui possédait une des plus belles voix de ténor qu'il eût jamais entendue.
« L'avez-vous entendu ? » demanda-t-il par-dessus la table à M. Darcy.
« Non, » répondit M. Darcy négligemment.
« Parce que, expliqua Freddy Malins, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Je trouve qu'il a une voix superbe.
Ben, « Il faut que ce soit Teddy qui fasse les bonnes découvertes, » dit familièrement M. Brown, s'adressant à toute l'assemblée.
« Et pourquoi pas ? » demanda Freddy Malins sèchement. « Est-ce que, parce que ce n'est qu'un nègre ?»
La question ne fut pas relevée. Et Mary Jane ramena la conversation à la scène lyrique. Une de ses élèves lui avait donné un billet de faveur pour Mignon.
« Oui, c'était bien, dit-elle, mais cela la faisait penser à la pauvre Georgina Burns. »
M. Brown pouvait se reporter encore plus en arrière jusqu'aux vieilles compagnies italiennes qui venaient de Dublin.
Tréchienne, Ilma di Murska, Campanino, le grand Trebelli, Goglini, Ravelli, Arambulo. Voilà des temps, disait-il, où il y avait à Dublin ce qui s'appelle du chant. Il narra aussi comment le poulailler du vieux royal était comble tous les soirs, comment un ténor italien avait été bissé 5 fois à « Laissez-moi tomber tel un soldat », montant jusqu'aux huttes chaque fois. Et comment les jeunes gens du poulailler, dans leur enthousiasme, dételaient les chevaux de la voiture de quelque prima donna et la traînaient eux-mêmes à travers les rues jusqu'à son hôtel. Pourquoi ne joue-t-on plus les grands vieux opéras aujourd'hui ? Demanda-t-il. Parce qu'il ne se trouve plus de voix pour les chanter, voilà pourquoi.
Oh bien, dit M. Dercy. J'estime qu'il y a aujourd'hui d'aussi bons chanteurs qu'il y en avait alors.
Ben, où sont-ils ? Défia M. Brown.
À Paris, à Londres, à Milan, dit M. Dercy avec chaleur. Caruso, par exemple, est, je suppose, tout aussi bon, sinon meilleur, que tous ceux que vous avez nommés.
C'est possible, dit M. Brown. Mais j'ose avancer que j'en doute fort.
Oh, je donnerais tout au monde pour entendre chanter Caruso, dit Mary Jane.
Pour moi, dit Tante Kate, qui venait de ronger un os, il n'y a jamais eu qu'un ténor qui me fît plaisir, j'entends, mais je suppose que pas un de vous ne l'a entendu.
Qui était-ce, Miss Morcan ? Demanda M. Dercy poliment.
Il s'appelait Parkinson, dit Tante Kate. Je l'ai entendu dans toute sa gloire et j'estime qu'il avait alors la voix de ténor la plus pure qui fût jamais issue d'un gosier d'homme.
C'est curieux, dit M. Dercy.
Je ne l'ai même pas entendu nommer.
Oui, oui, Miss Morcan a raison, dit M. Brown. Je me souviens avoir entendu parler du vieux Parkinson. Mais c'est une époque trop reculée pour moi.
Une merveilleuse, pure, douce et mélodieuse voix de ténor anglais, dit Tante Kate avec enthousiasme.
Gabriel ayant terminé, l'énorme pudding fut transporté sur la table. Le bruit de fourchette et de cuillère reprit. La femme de Gabriel servait le pudding par cuillerée et faisait passer les assiettes jusqu'au bas de la table. À mi-chemin, elles s'étaient retenues par Mary Jane qui les remplissait de gelée de framboise ou d'orange ou de blanc mangé et de confiture. Le pudding était l'œuvre de Tante Julia et de tous côtés, elle en reçut des éloges. Elle répondit qu'elle ne le trouvait pas tout à fait assez brun.
« Eh bien, j'espère, Miss Morcan, dit M. Brown, que je suis assez brun pour vous. Parce que vous savez, je suis tout brun. »
Safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the end.
dance me to the wedding now. Dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love. We're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love.
Après la pause musicale, nous voici de nouveau pour la lecture de la nouvelle de James Joyce, Les Morts. Tous les messieurs, sauf Gabriel, goûtèrent au pudding, par déférence pour tante Julia. Comme Gabriel ne prenait jamais d'entremets, on lui laissa le céleri. Freddy Malins prit aussi une tige de céleri et le mangea avec son pudding. Il lui avait été dit que le céleri était excellent pour le sang, et justement, il était entre les mains du médecin. Madame Malins, qui pendant tout le souper était demeurée silencieuse, dit que son fils comptait aller à Montsilleray d'ici une semaine ou deux. La conversation roula alors sur Montsilleray. Comme l'air y était vivifiant, combien les moines y étaient hospitaliers, jamais ils ne réclamaient un centime à leur hôte. Et vous voulez nous faire accroire, demanda M. Brown d'un ton incrédule, que n'importe qui peut aller là-bas, s'y installer comme à l'hôtel, manger à cœur joie et s'en revenir sans rien payer.
Oh, la plupart des gens font quelques dons au monastère avant de s'en aller, dit Mary Jane.
Je voudrais bien que nous eussions une installation de ce genre dans notre église, dit M. Brown avec candeur.
Il était fort étonné d'apprendre que les moines ne parlaient jamais, se levaient à 2 heures du matin et dormaient dans leur cercueil. Il en demanda la raison.
C'est le règlement de leur ordre, dit Aunt Kate avec fermeté.
Oui, mais pourquoi ?
Demanda M. Brown.
Tante Kate répéta que c'était le règlement, voilà tout.
M. Brown semblait toujours ne pas comprendre.
Freddy Malins expliqua de son mieux que les moines s'efforçaient de racheter les péchés commis par tous les pécheurs du siècle.
L'explication n'était pas très claire, car M. Brown ricana et dit
« Cette idée me plaît, mais est-ce qu'un bon lit à ressort ne ferait pas tout aussi bien l'affaire qu'un cercueil.
Le cercueil, dit Mary Jane, c'est pour leur rappeler leur dernière heure.
Le sujet, ayant pris un tour lugubre, se perdit dans un complet silence, pendant lequel on put entendre Madame Malins dire à sa voisine à voix basse
« Ce sont des hommes très bons, ces moines, des hommes très pieux. »
Raisins secs, amandes, figues, pommes, chocolat, bonbons furent passés autour de la table. Et tante Julia invita tous les convives à prendre un verre de Porto ou de Sherry. Monsieur Darcy commença par décliner les deux, mais un de ses voisins le poussa du coude et lui chuchota quelque chose, sur quoi il laissa remplir son verre. À mesure que les derniers verres se remplissaient, la conversation tombait. Un silence se s'ensuivit, interrompu seulement par le vin qui coulait et par le déplacement de chaises. Les trois Miss Morcan regardèrent la nappe. Quelqu'un toussa une ou deux fois, puis plusieurs messieurs tapotèrent légèrement sur la table pour réclamer le silence. Le silence s'établit et Gabriel repoussa sa chaise et se leva. Le tapotement s'accrut aussitôt en manière d'encouragement, puis cessa tout à fait. Gabriel appuya ses 10 doigts tremblants sur la nappe et dirigea à l'adresse de la société un sourire nerveux. Son regard, ayant rencontré une rangée de visages, tourna vers lui, se porta vers le lustre. Le piano jouait un air de valse et il entendait le bruissement des jupes contre la porte du salon. Peut-être que dehors, sur le quai, des gens se tenaient debout dans la neige, contemplant les fenêtres éclairées et prêtant l'oreille au son de la valse. L'air était pur dehors. Au loin était le parc où les arbres ployaient sous la neige. Le monument de Wellington portait un bonnet de neige scintillant qui luisait sur l'ouest par-dessus la blanche prairie de 15 aires. Il commença.
Mesdames, messieurs, ainsi que les années précédentes, m'incombe ce soir un devoir fort agréable, mais un devoir lequel, je le crains, dépasse la mesure de mes facultés oratoires.
Non, non, dit Monsieur Brown.
Mais quoi qu'il en soit, je ne puis que vous demander de bien vouloir ne tenir compte que de l'intention et de me prêter une oreille attentive quelques instants tandis que je m'efforcerai de vous exprimer la nature des sentiments que j'éprouve en une circonstance comme celle-ci. Mesdames, messieurs, ce n'est point la première fois que nous nous trouvons réunis sous ce toit hospitalier, autour de cette table non moins hospitalière. Ce n'est pas la première fois que nous sommes les objets, peut-être faudrait-il dire les victimes, de l'hospitalité de certaines aimables dames ici présentes.
Il traça un cercle dans l'espace et rit un temps. Tout le monde rit ou sourit à tante Kate, tante Julia et Mary Jane qui rougirent de plaisir. Gabriel poursuivit avec plus d'assurance.
Chaque année, je sens avec une intensité croissante que notre pays n'a pas de tradition qui lui fasse plus d'honneur, ni qu'il doive garder plus jalousement que celle de son hospitalité. C'est une tradition qui, chez les nations modernes, me semble unique, autant que je puis en juger par mon expérience, et j'ai vu pas mal de pays étrangers.
Quelques-uns vous diront peut-être que chez nous, c'est plutôt un de nos défauts qu'une chose dont nous ayons à nous glorifier. Mais même ceci admis, à mon avis, ce n'en est pas moins un défaut princier et qui sera, je le souhaite, longtemps cultivé parmi nous. D'un fait, en tout cas, je me porte garant. Tant que ce toit abritera ces bonnes dames visées plus haut, et j'espère du fond du cœur qu'il en sera ainsi pendant bien des années à venir,
la tradition de la courtoise, chaleureuse et sincère hospitalité irlandaise que nos aïeux nous ont transmise et qu'il nous faudra à notre tour transmettre à nos descendants, demeurera toujours vivace parmi nous. »
Un chaleureux murmure d'assentiment courut autour de la table. La pensée que Miss Ivors n'était pas là et qu'elle était partie d'une façon peu courtoise traversa l'esprit de Gabriel et il dit, plein de confiance en lui-même,
« Mesdames, messieurs, une génération nouvelle grandit parmi nous, une génération animée d'idées et de principes nouveaux, qui prend au sérieux et s'exalte pour ses idées nouvelles, et son enthousiasme, même lorsqu'il fait fausse route, est, j'en suis convaincu dans l'ensemble, sincère. Mais nous vivons dans une époque de scepticisme et, si je puis m'exprimer ainsi, torturé de pensée. Et quelquefois, je crains que cette nouvelle génération éduquée et suréduquée comme elle l'est ne manque de ces qualités d'humanité et d'hospitalité, de bonne humeur, qui ont été l'apanage d'une autre époque. En entendant ce soir les noms de nos illustres chanteurs du passé, il m'a semblé, je le confesse, que nous vivions à une époque moins spacieuse. Les temps anciens peuvent, sans exagération, être qualifiés de spacieux. Et s'ils sont révolus sans espoir de retour, souhaitons du moins que dans des réunions semblables à celle-ci, nous en reparlions toujours avec orgueil et affection, que nous continuions à chérir la mémoire de ces grands disparus dont le monde ne laissera pas volontairement périr la gloire.
Bien, bien, dit Monsieur Brown d'une voix forte.
Mais néanmoins, poursuivit Gabriel, sa voix déclinant en une inflexion plus douce, il arrive, toujours, dans des réunions comme celle-ci, que de plus tristes pensées reviennent visiter nos esprits. Pensées du passé, de jeunesse, de transformation, de visage, dont nous sentons ce soir l'absence. Notre route à travers la vie est semée de beaucoup de souvenirs, et si nous devions les entretenir toujours, nous n'aurions plus le cœur d'accomplir courageusement notre tâche parmi les vivants. Nous avons tous, dans la vie, des devoirs, des affections qui réclament et réclament à bon droit nos efforts soutenus. C'est pourquoi je ne m'attarderai pas sur le passé. Je ne veux pas qu'un triste sermon pèse sur nous ce soir. Nous voici réunis, échappés pour quelques courts instants à la poussée, à la cohue de notre routine quotidienne. Nous nous unissons ici en amis, dans un esprit de bonne entente, comme des confrères. Et jusqu'à un certain point dans une véritable sensation de camaraderie, et aussi en hôte. Comment les qualifier autrement ? Des trois grâces du monde musical de Dublin.
Cette allusion fut saluée autour de la table par une salve d'applaudissements et une explosion de rire. En vain, Tante Julia demanda tour à tour à ses voisines ce que Gabriel venait de dire.
« Il dit que nous sommes les trois grâces, Tante Julia, » dit Mary-Jane.
Tante Julia ne comprenait pas, mais elle leva les yeux en souriant vers Gabriel, qui poursuivit dans la même veine.
« Je ne me hasarderai pas à jouer ce soir le rôle que Paris se joua dans une autre circonstance. Je ne me hasarderai pas à choisir parmi elles. La tâche serait scabreuse et au-dessus de mes moyens, car... lorsque je les passe chacune en revue, que ce soit notre principale hôtesse elle-même, dont la bonté, la trop grande bonté, est devenue proverbiale pour tous ceux qui la connaissent, que ce soit sa sœur, qui semble douée d'une jeunesse éternelle et dont la voix, certes, a été une surprise et une révélation pour nous tous ce soir, que ce soit encore la dernière, mais non la moindre, c'est-à-dire notre plus jeune hôtesse, pleine de talent, d'entrain, dure au travail, et par-dessus tout la meilleure des nièces. J'avoue, mesdames et messieurs, que j'ignore à laquelle des trois je décernerai le prix.
Voilà, nous avons terminé pour ce soir, et nous reprendrons demain la suite de cette nouvelle de James Joyce, « Les morts ». Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon,
Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.